La gigantesque accumulation, c'est le podcast des économistes atterrés sur Spectre, la plateforme libre et engagée.
Une gigantesque accumulation de marchandises, c'est, selon Marx, la forme que prend la richesse dans les sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste. Le capitalisme réduit le monde à sa valeur marchande. Il nie les rapports humains, il nie la nature, il nie le travail domestique, les services publics, les coopératives, les associations, les communs.
Le capitalisme ne veut voir du monde qu'accumulation et marché. Parce que c'est atterrant, nous déconstruisons chaque mois cette vision du monde, parce que d'autres politiques économiques sont possibles, plus justes et plus émancipatrices.
Spectre.
Dans cet épisode de la gigantesque accumulation, le podcast des économistes atterrés sur Spectre, nous allons parler de l'inflation avec Jonathan Marie, économiste au Centre d'économie Paris-Nord. Bonjour Jonathan, et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Avec Virginie Monvoisin, vous avez signé la dernière note des économistes atterrés le 18 février 2022, intitulée « L'inflation, une question de répartition ». Alors est-ce que tu peux nous rappeler d'abord ce que c'est que l'inflation ? Pourquoi est-ce qu'à une époque c'était quelque chose de très important ? Et puis pendant un moment, ça a un peu disparu des radars avant de revenir très récemment.
Merci pour cette invitation, c'est avec grand plaisir que je participe à cette nouvelle émission des économistes atterrés. L'inflation, c'est simplement un phénomène de hausse des prix. Donc on mesure l'inflation, généralement l'INSEE fournit un indicateur de mesure de l'inflation qui est mesuré par un indice des prix à la consommation. Donc l'inflation, c'est le rythme d'évolution des prix. Quand on parle d'augmentation de l'inflation, ça signifie que les prix à la consommation voient leur progression augmenter. Je ne suis pas sûr que l'inflation ait été, ou la surveillance de l'inflation ait disparu des radars et revienne sur le devant de la scène. Dans le débat public, dans les débats, les questions économiques, on parle aujourd'hui de l'augmentation de l'inflation. Mais les politiques économiques étaient visées à maintenir une inflation très basse, et ce depuis les années 80. Et particulièrement en Europe. La construction européenne, la construction de la monnaie unique, visait à avoir une inflation faible. Parce qu'on articulait cette volonté de maintenir une progression des prix très modeste avec la politique de l'offre qui visait à accroître la compétitivité de l'économie européenne dans l'économie mondiale. Donc il y avait un enjeu. On pense que l'économie européenne va gagner des parts de marché si on parvient à limiter la progression des prix.
Et l'inflation faible, c'est combien ? C'est 2, c'est 0, c'est...
L'inflation faible, les traités européens confient à la Banque Centrale Européenne une mission de maintenir une inflation faible. Donc c'est ainsi que c'est écrit dans les traités européens. Et la Banque Centrale Européenne, quand elle a été créée, a auto-défini cette norme d'une inflation légèrement inférieure à 2%. La Banque Centrale Européenne vise une inflation à 2% légèrement en dessous. Et c'est une norme historiquement, on le montre dans la note, une inflation à 2%, c'est très faible. Si on compare avec ce que l'on observait dans les années 50-60, la norme était d'une inflation annuelle au-delà des 5%. Et pourtant, on était au plein emploi. Et pourtant, le pouvoir d'achat progressait. Donc c'est historiquement faible, cette norme de 2%. Et cette norme s'est imposée dans les années 90.
D'accord. Et là, maintenant, ça réapparaît dans le débat public au-delà des politiques que tu mentionnais, parce qu'on est très, très au-dessus de 2%.
On est très très au-dessus dans l'Union européenne. Ces derniers mois, l'inflation est autour de 5%. Elle est ce dernier mois de 7,5% en rythme annuel aux États-Unis. Et en France, on est autour de 3%. Donc on a une progression de l'inflation. Mais il y a deux ans, le principal risque, c'était la déflation. On craignait que les prix diminuent et que ça entraîne des conséquences extrêmement fortes sur les acteurs, les agents qui sont endettés. Puisque si les prix diminuent, le poids de la dette, en termes réels, c'est-à-dire quand on enlève l'effet des prix, le poids de la dette progresse. Donc il y avait un risque de déflation et de spirale de déflation par la dette, pour reprendre ce terme d'économiste Irving Fisher, risquait d'empêcher le rebond économique après la crise sanitaire. Aujourd'hui, le fait que les prix progressent, ça inquiète parce que ça a des incidences sur le pouvoir d'achat, en particulier sur le pouvoir d'achat des salariés dont les revenus ne progressent pas au même rythme que les prix. Mais à nouveau, c'est plus que l'inquiétude sur le niveau de l'inflation, l'inquiétude c'est que les revenus du travail en particulier, ne progressent pas au même rythme que l'inflation. Donc ça occasionne des pertes de pouvoir d'achat. Mais le principal problème, ce n'est pas tant le niveau de l'inflation, encore une fois, c'est le fait que les revenus du travail ne progressent pas.
La déconnexion entre les deux, si les salaires augmentent en même temps que l'inflation, ça n'a pas d'effet sur le pouvoir d'achat.
Exactement.
Si les deux se déconnectent.
Exactement. S'il y avait une indexation des salaires sur l'inflation, l'inflation actuelle serait neutre du point de vue du pouvoir d'achat des salariés. Et en fait, ce que révèle la situation actuelle, cette progression de l'inflation, elle est provoquée par, il y a deux moteurs principaux. D'abord, des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. L'exemple typique, c'est les semi-conducteurs. Suite à la crise du Covid et la reprise de l'économie mondiale, les producteurs de semi-conducteurs ne parviennent pas à répondre à la reprise de la demande de ce type de produit, et ça gêne la production de nombreux biens, par exemple dans le secteur de l'automobile. Donc les prix ont tendance à augmenter, ça tire l'inflation à la hausse. Et le deuxième facteur de progression des prix, c'est les prix de l'énergie, les prix du gaz qui alimentent cette inflation. Mais c'est une inflation qui est provoquée par la reprise de l'économie suite à la crise sanitaire et cette déconnexion de nos modes de production en différents sites à l'échelle planétaire. On parle de chaîne globale de valeur, chaîne globale de production, et qui a du mal à repartir après la crise sanitaire et après les périodes de lockdown, de confinement, qui avaient coupé la production mondiale. Donc c'est vraiment une phase de reprise qui occasionne l'inflation. Et que les prix augmentent, ça signifie que les firmes, les entreprises, voient leurs coûts progresser, les coûts qui ne sont pas le coût salarial, les coûts des matières premières, le coût des biens importés qui entrent dans leur schéma de production. Ces coûts augmentent et les entreprises répercutent ces hausses de coûts pour maintenir les marges sur les prix finaux, ce qui provoque l'inflation. Et les salaires ne progressent pas. Donc on a ça entraîne une déformation de la répartition, c'est-à-dire ce partage de la valeur ajoutée entre rémunération du travail et rémunération du capital. Cela atteste que la rémunération du capital se maintient, voire progresse, alors que la rémunération du travail diminue. Et ce sur quoi on insiste aussi dans la note, c'est que ce phénomène que l'on observe aujourd'hui, il ne doit pas être déconnecté d'une tendance que l'on observe depuis les années 70 de diminution de la part de la rémunération du travail dans la valeur ajoutée. Donc ça accroît une tendance historique d'une trentaine d'années de diminution de la rémunération du travail au profit de la rémunération du capital.
Donc tout à fait cohérente avec les politiques de Macron depuis plusieurs années. Hein. Et donc là, on aurait simplement... de façon cohérente, une nouvelle phase ou un nouveau moment dans ces politiques-là d'évolution de la répartition en faveur des entreprises. Peut-être juste pour développer un tout petit peu l'effet de l'inflation sur les gens. Hein. Si moi j'ai un revenu, mon salaire ne bouge pas, je suis fonctionnaire, donc le point d'indice est gelé. Les prix augmentent, donc je peux acheter moins de choses avec mon argent. Mais par ailleurs, si j'ai pris un emprunt, est-ce que c'est favorable ou défavorable? Si je paye un loyer, est-ce que l'inflation, c'est favorable ou défavorable? Et puis inversement, si j'ai un gros capital financier parce que je suis plus riche ou parce que j'ai eu un gros héritage, comment ça joue?
L'inflation actuelle, encore une fois, elle montre que les entreprises sont capables de répercuter ces hausses de coûts subies sur les prix finaux et donc maintenir leur profitabilité. Donc si on est actionnaire des grandes entreprises, que les grandes entreprises montrent qu'elles maintiennent leur taux de marge, on doit s'attendre à ce que le niveau de dividendes qui pourrait être versé les années à venir se maintienne. Donc de ce point de vue-là, le revenu tiré de la propriété, du capital, il tend à se maintenir. Par contre, si on détient des obligations, dont la rémunération est fixe. Cette rémunération, les taux d'intérêt vont se maintenir à l'avenir. Le pouvoir d'achat que l'on va tirer de cette rémunération fixe tend à diminuer. Si on est travailleur, que son salaire ou que son traitement, si on est fonctionnaire, ne progresse pas au même rythme que l'inflation, là encore, le pouvoir d'achat diminue. Si on est endetté par un crédit immobilier, qu'on a des revenus tirés du travail, que nos revenus tirés du travail n'augmentent pas, ce que l'on doit pour rembourser la dette, le montant est équivalent et on perd en pouvoir d'achat, la dette reste équivalente. On a un avantage à être endetté quand il y a de l'inflation si nos revenus progressent au même rythme que l'inflation. Ce qui peut être le cas de certains acteurs, mais en tout cas, si on est un agent, un ménage endetté, si nos revenus tirés de notre activité professionnelle ne progressent pas alors que les prix progressent, la dette reste la même en termes de sommes que l'on doit verser chaque mois et le pouvoir d'achat diminue.
D'accord, donc la situation économique du ménage s'aggrave, alors que, comme tu expliquais que la situation des entreprises est plutôt favorable, elles peuvent, si elles sont endettées, les entreprises, ça peut plutôt jouer favorablement pour elles, plus que pour les ménages endettés, quoi.
Puisque les entreprises parviennent, globalement, ce sera moins le cas pour des PME, mais les plus grandes entreprises parviennent à augmenter leurs prix, donc elles parviennent à alléger ces charges. L'inflation, on dit souvent l'inflation est favorable aux agents endettés, c'est le cas à condition que les agents endettés voient leurs revenus progresser en même temps que l'inflation. C'est ce qu'on observait dans les années 60-70. Les revenus avaient tendance à être indexés sur l'inflation, l'inflation augmentait, et une dette avec des taux d'intérêt à payer en termes fixes, si le coût de la dette n'était pas réévalué, si les montants nominaux du contrat de dette n'étaient pas réévalués, c'était le cas, on voyait le poids de cette dette s'alléger en même temps que l'inflation, parce que les revenus progressaient en même temps que les prix. Donc c'est une des propositions que l'on fait dans la note, c'est on doit s'assurer que les revenus du travail puissent progresser lorsqu'il y a des sursauts de l'inflation comme ceux que l'on observe aujourd'hui. L'inflation est provoquée par le contexte de l'économie globale, il faut que les revenus du travail puissent progresser simultanément par l'indexation. Et ces indexations, elles ont été démantelées à partir des années 80 dans ces politiques. C'était une cohérence du point de vue de l'ensemble des politiques économiques menées à partir des années 80 avec la désindexation de l'économie qui s'articulait avec les politiques de l'offre. On cherchait justement à favoriser l'absence de progression des revenus du travail simultanément à l'augmentation des prix, pour favoriser la désinflation, la baisse de l'inflation, et pour favoriser la profitabilité des entreprises.
Oui, c'est ça, c'est qu'il y a une situation d'inflation, le gouvernement veut limiter l'inflation, et le levier principal qui est utilisé, c'est celui du gel des salaires, plutôt que de geler d'autres aspects de l'économie qui pourraient aussi jouer sur l'inflation.
Exactement. L'inflation, en fait, révèle des dysfonctionnements de l'économie actuelle, révèle des tendances en cours dans l'économie actuelle. On ne devrait pas déconnecter le rebond de l'inflation aujourd'hui de ce que l'on a vécu pendant la pandémie et qui avait, à juste titre, alerté un grand nombre de citoyens. Souvenez-vous, pendant la pandémie, au début de la crise sanitaire, il était impossible en France de se fournir des masques, d'obtenir certains médicaments, du fait de l'éclatement des chaînes globales de valeur à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, l'inflation, elle atteste aussi des dysfonctionnements de cette économie hyper globalisée, de ces chaînes globales de valeur qui sont... On dépend de fournisseurs étrangers pour beaucoup de choses. Et s'il se passe des difficultés sur ces chaînes de valeur, alors soit on n'obtient pas les produits, soit on subit une augmentation des prix. C'est exactement ce que l'on voit. Donc le réflexe qui tend à dire aujourd'hui, il y a une augmentation de l'inflation, ça occasionne une perte de pouvoir d'achat des travailleurs, il faut lutter contre l'inflation, c'est un réflexe facile, simpliste. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui provoque l'inflation? l'organisation de l'économie hyper globalisée. On doit, à long terme, se dire qu'il faut rendre nos économies moins dépendantes de nos importations énergétiques, de nos importations de certains composants industriels. On doit être capable de relocaliser certaines activités. Et pour limiter les effets d'éventuels, donc plus à court terme, pour limiter les effets néfastes de cette augmentation d'inflation, il faut organiser la progression des revenus à minima au même rythme que l'inflation, et on devrait même penser à une progression des revenus du travail, en particulier des revenus les plus bas. Et là encore, la crise de la Covid avait rappelé combien certaines professions sont mal rémunérées. On doit donc se poser une question de la hiérarchie des rémunérations et favoriser une augmentation des rémunérations de certains emplois qui sont bien trop mal rémunérés dans la santé, dans l'aide à la personne notamment.
Oui, d'autant que la situation récente, hein, depuis le Covid, cette année en particulier, c'est une aggravation très forte des inégalités et puis une répartition qui se fait très fortement en défaveur des salariés. Donc là, on a beaucoup de très grandes entreprises françaises qui font des profits records, et donc c'est assez difficile de justifier que le problème de l'inflation, ce serait la hausse des salaires qui est trop rapide, hein. C'est clairement de l'autre côté que éventuellement il peut y avoir des choses qui poussent à l'inflation, et donc effectivement, on voit pas bien où sont les arguments pour aller expliquer qu'il faut modérer les salaires plutôt que l'inverse, quoi.
Donc on peut certainement s'appuyer sur la situation actuelle en disant finalement le rebond économique a été rapide, le soutien, en particulier en France, mais pas seulement, le soutien des États à l'activité économique a évité une dépression qui aurait été encore plus forte, les niveaux d'emploi progressent, le taux de chômage diminue, donc justement, appuyons-nous sur ce contexte de rebond économique. Tirons les leçons de la crise. Qu'a révélé la crise sanitaire? Que révèle la situation actuelle sur le dysfonctionnement de nos économies pour entraîner cette reformulation de la répartition qui, encore une fois, est historiquement en défaveur de la rémunération du travail? Et de ce point de vue-là, on peut voir que la situation aux États-Unis montre qu'il y a une réflexion qui progresse sur le fonctionnement du marché de l'emploi. Avec ce phénomène de grande démission, beaucoup de travailleurs américains qui refusent des conditions de travail extrêmement précaires, qui refusent de travailler avec des rémunérations beaucoup trop faibles, ça atteste bien de dysfonctionnement ici économique et ici sur le marché de l'emploi. Il faut sécuriser les travailleurs, il faut se poser la question de la répartition du temps de travail, certainement provoquer une baisse du temps de travail pour maintenir le plein emploi, pour aussi lier ces enjeux avec les enjeux de transition écologique, de modification des modalités de production, de modification des modes de consommation. Donc c'est une réflexion extrêmement large que l'on doit avoir. Et le petit bout de la lorgnette qui consiste à dire « Aujourd'hui, l'inflation progresse, attention, attention, c'est dramatique, il ne faut pas revivre ce que l'on a vécu dans les années 70, il faut que la Banque centrale augmente les taux d'intérêt, il faut arrêter le soutien par la politique budgétaire à l'économie », c'est vraiment la pire des choses, parce que ça empêcherait de déclencher ces modifications de nos économies.
Tu mentionnes la situation du marché de l'emploi aux États-Unis, avec des gens qui démissionnent et l'idée qu'on a des salariés qui choisiraient un peu leur emploi, qui chercheraient des meilleures conditions de travail, etc. Et en même temps, on a l'idée que c'est aux États-Unis que les conditions sont les pires et qu'il y a moins de protection pour les salariés. Pourquoi c'est pas en France que les gens démissionnent et exigent des hausses de salaire? Qu'est-ce qui fait qu'on a cette situation très étrange là où on a les chefs d'entreprise qui nous expliquent qu'ils n'arrivent pas à recruter, mais en même temps on n'a pas l'impression qu'il y ait une amélioration du tout de la situation d'emploi pour les chômeurs, pour les précaires, pour les bas salaires, quoi.
C'est sûr qu'il y a une différence importante entre le fonctionnement du marché de l'emploi aux États-Unis et ce que l'on peut observer en Europe et en France en particulier. Tu l'as dit, la réglementation sur le travail au sens large existe et est plus importante en Europe qu'aux États-Unis. Et ça entraîne que les fluctuations du chômage, les fluctuations de l'emploi sont beaucoup plus amorties dans un sens comme dans l'autre en Europe par rapport aux États-Unis. Donc les périodes de boom pendant la crise du Covid, le taux de chômage avait explosé aux États-Unis beaucoup plus rapidement que ce qu'on a observé en Europe. Et maintenant que ça repart, le taux de chômage diminue beaucoup plus vite que ce qu'on observe en Europe. Donc ça déclenche des réactions qui sont beaucoup plus amples. Mais par contre, l'idée quand même que les travailleurs ne se posent pas la question de leur niveau de rémunération aujourd'hui en Europe, l'idée que les travailleurs ne se posent pas la question des conditions de travail, je ne suis pas convaincu. J'ai plutôt l'impression qu'au contraire, c'est quelque chose qui revient sur le devant de la scène. Et on a plusieurs exemples de mouvements récents, de mouvements dans sectoriel ou dans certaines entreprises où les salariés exigent des discussions sur l'organisation du temps de travail et sur le niveau de rémunération.
Le cœur de la note que vous avez écrite, c'est que l'inflation, c'est d'abord une question de répartition, que ça dépend des positions des différents acteurs et en particulier entre les salariés et les employeurs. Et on a le plus gros employeur en France, hein, si je dis pas de bêtises, c'est l'État. Du coup, on peut aussi regarder l'État, non pas du point de vue de la politique monétaire, de est-ce qu'il doit ou pas réduire l'inflation, mais du point de vue en tant qu'employeur, quoi. Est-ce qu'il y gagne, est-ce qu'il y perd, est-ce que finalement, c'est pas d'abord l'État lui-même qui a les leviers pour jouer sur la répartition capital-travail en tant qu'employeur, pas seulement en tant que le gouvernement qui va produire des lois, etc., quoi.
Il y a deux aspects directs sur lesquels le gouvernement peut jouer pour favoriser la reflation salariale, pour favoriser l'augmentation de la rémunération du travail. D'abord, c'est le SMIC. Le SMIC, il est possible d'augmenter le SMIC. Au-delà, le SMIC est indexé, mais on peut faire un coup de pouce sur le SMIC. Donc ça, c'est le premier élément. Et bien sûr, tu l'as mentionné, l'État est un employeur, l'État a sa fonction publique, et augmenter le point d'indice qui sert de base au calcul de la rémunération des fonctionnaires, là encore, c'est un levier important. Et tu l'as mentionné, le point d'indice est gelé depuis 2010, quasiment. Il y a eu juste une petite revalorisation de ce point à la fin du mandat Hollande, mais tendanciellement, il y a une perte de pouvoir d'achat des fonctionnaires du fait de ce gel du point d'indice. Et il est temps d'abord de réindexer certainement le point d'indice, comme c'était le cas de manière automatique par le passé, et bien sûr d'augmenter ce point d'indice. Et il y a un troisième aspect où, dans lequel le gouvernement, l'État doit jouer et permettre des négociations salariales, donc en convoquant des négociations tripartites entre gouvernement, représentants des travailleurs et représentants des entreprises pour poser la question des salaires, de l'organisation du travail dans l'ensemble de l'économie.
Alors, il y a un débat traditionnel autour de l'inflation qui, encore une fois, est passé au second plan avec les périodes d'inflation très faibles. C'est la mesure de l'inflation. Est-ce que l'inflation est la même pour tout le monde? Est-ce que, quand on discute l'effet de l'inflation sur le pouvoir d'achat des bas salaires, est-ce que c'est la même chose que l'effet de l'inflation sur les gros patrimoines ou sur les dividendes, etc., quoi? Et du coup, est-ce que ce débat va ressurgir? Il a déjà ressurgi? Ou est-ce que, pour l'instant, la façon dont on discute de l'inflation fait que, finalement, il s'agit juste de trouver un prétexte de plus pour baisser la part des revenus du travail dans le PIB?
La question de la mesure de l'inflation, c'est vrai qu'elle est extrêmement prégnante. On peut suspecter que l'inflation va être minimisée pour des raisons politiques, électoralistes. Donc ces débats ne sont pas prégnants en France, mais on a des exemples. Le directeur de l'Institut des statistiques en Turquie a été limogé par le gouvernement turc il y a quelques semaines parce qu'il avait publié des chiffres de l'inflation qui apparaissaient trop importants. Il y a eu des débats aussi en Argentine au début des années 2010 autour de l'Institut national des statistiques, l'équivalent de l'INSEE, dans sa mesure de l'inflation. Beaucoup d'économistes indiquaient que cet institut minimisait l'inflation. Donc il y a effectivement, c'est une question importante. La CGT, par le passé, publiait son propre indice de mesure de l'évolution des prix pour s'appuyer sur cet indice, en plus de l'indice publié par l'INSEE, pour négocier des augmentations de salaire. Et effectivement, la question que tu poses, elle est juste, puisque l'INSEE, on le disait, quand l'INSEE cherche à mesurer l'inflation, l'INSEE va mesurer un indice des prix à la consommation. Donc l'INSEE va constituer un panier de biens moyens qui est consommé par les ménages français, et on va chercher à étudier l'évolution du prix de ce panier de biens période après période. Mais tous les Français ne consomment pas la même chose, et certains Français ont un poids de certaines consommations contraintes plus important que d'autres dans leur panier de consommation. Donc l'inflation telle qu'elle est mesurée de manière moyenne peut être ressentie beaucoup plus fortement pour des ménages aux revenus modestes. Et ça justifie à nouveau ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut s'occuper en particulier de la rémunération des ménages les plus modestes.
D'accord. Alors peut-être une dernière question plus d'actualité autour de la fin de la campagne présidentielle, enfin, ou le début, on ne sait pas trop parce qu'elle est bizarre cette campagne. Est-ce que l'inflation, ça fait partie des sujets qui sont soulevé par les différents candidats? Est-ce qu'il y a des débats autour de ça, des positionnements différents, ou est-ce que les programmes politiques plus généralement des candidats donnent des réponses qui te paraissent aller dans le sens de la note des économistes atterrés, ou au contraire dans l'autre sens que dénonce la note, hein, de trouver un prétexte de plus pour la modération salariale?
C'est une question qui n'est pas encore ou qui je pense va être au cœur des propositions, mais l'ensemble des candidats ne s'est pas encore véritablement saisi des enjeux, ou alors aborde les enjeux de manière assez disparate. Par exemple, on a plusieurs candidats qui proposent que la rémunération du travail puisse progresser par une baisse des cotisations salariales ou des cotisations patronales. Si on utilise ce levier pour déclencher ou pour limiter la perte de pouvoir d'achat de la rémunération du travail, on détricote les revenus que l'on pourra percevoir en cas d'arrêt maladie ou lorsqu'on sera à la retraite. On affaiblit en fait le pouvoir d'achat ultérieur sur la retraite. Donc ça ne semble pas être la bonne mesure. Les mesures du gouvernement qui étaient des mesures ponctuelles, par exemple le chèque de 100 euros pour les rémunérations les plus faibles pour faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie, sont des mesures, là encore, ponctuelles. Elles n'enrayent pas la perte de pouvoir d'achat qui va être définitive, puisque les prix ont augmenté, les prix ne redescendront pas. Donc on a là encore une mauvaise mesure. La bonne mesure, et c'est celle que l'on préconise, c'est vraiment de favoriser l'augmentation de la rémunération du travail, l'augmentation des salaires, l'augmentation des traitements des fonctionnaires.
Alors du coup, pour poser la question peut-être un peu différemment, est-ce que ça, c'est ça revient au clivage traditionnel gauche-droite, et du coup on aurait tous les candidats de Macron à Zemmour à droite qui seraient du côté d'une politique de modération salariale, et puis les candidats traditionnels à gauche qui seraient plutôt en cohérence avec la position de la note des économistes atterrés, ou est-ce que c'est plus compliqué, il y a des surprises?
Non, j'ai pas repéré de grandes surprises. C'est un point de clivage important. Et poser la question de l'inflation, non pas du point de vue de la nécessité de lutter contre l'inflation par une politique macroéconomique qui serait récessive, mais de déclencher des hausses de salaire, c'est un point de clivage traditionnel et qu'on va retrouver, je pense, dans la campagne.
Alors donc on a bien compris, l'inflation c'est un épouvantail qui peut servir pour justifier des politiques d'austérité salariale, en disant qu'il faut absolument bloquer l'inflation et donc les hausses de salaire ce serait mauvais. Mais ça, du point de vue de la théorie économique, est-ce qu'il y a un consensus? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ou est-ce qu'au contraire, on sait que c'est relativement faux, mais il y a quand même des économistes pour le défendre?
Il y a en ce moment beaucoup d'économistes, et ça a commencé dès l'été, dès le printemps 2021, dès que Joe Biden a annoncé des plans de soutien massifs pour soutenir l'économie américaine après la crise du Covid. Beaucoup d'économistes du mainstream, c'est-à-dire ce courant en macroéconomie qu'on nomme le nouveau consensus, ce serait un consensus, on accepte certains mécanismes keynésiens à court terme, mais à long terme, on fait référence à des mécanismes d'ajustement automatique de l'économie. Donc au sein du nouveau consensus, il y a cette idée que tendanciellement, à long terme, les économies se situent à l'équilibre de plein emploi. Et à cet équilibre de plein emploi, l'inflation est faible. Pour ces économistes, si on soutient l'économie de manière trop virulente, trop forte, si on a une politique budgétaire trop expansionniste, si la politique monétaire est trop accommodante, on risque de pousser l'économie au-dessus de ce niveau d'équilibre de long terme. Et l'économie est alors en surchauffe, et la manifestation de cette surchauffe, c'est l'inflation. Et certains économistes avaient dit, mais Joe Biden, en ayant ses plans de soutien à l'économie américaine, en ayant ce plan de soutien aux ménages des familles, en ayant cette volonté d'investir dans les infrastructures, il va pousser l'économie américaine au-dessus de son équilibre de long terme. Il va provoquer l'inflation. Et ces économistes nous disent, ben voilà, l'inflation aujourd'hui, 7,5% aux États-Unis, c'est la preuve qu'il ne fallait pas soutenir à ce point-là l'économie. Et ils appellent à une modération des politiques de soutien à l'économie, à une politique budgétaire qui serait moins expansionniste et une politique monétaire qui deviendrait plus restrictive pour permettre à l'économie de revenir à son niveau de plein emploi. De notre point de vue théorique qu'on présente dans la note, nous définissons Virginie et moi comme économistes post-keynésiens, nous ne croyons pas que l'économie à long terme est sur une tendance de plein emploi. Il n'y a pas de mécanisme qui ramène l'économie à une situation de plein emploi, une situation idéale. Il faut limiter les effets des fonctionnements de marché qui peuvent être délétères. Et prendre comme prétexte à une politique restrictive aujourd'hui, l'augmentation de l'inflation, ça nous semble devoir être rejeté. On a des besoins importants en investissement pour favoriser la transition écologique. On a des besoins importants pour répondre aux besoins sociaux. Donc on a besoin d'une modification de nos activités. On a besoin d'une augmentation de l'activité économique qui peut pousser à l'augmentation des prix. Mais cette augmentation des prix, si les salaires progressent, alors on peut tout à fait y faire face et les effets de l'inflation ne seront pas délétères.
Et du coup, Joe Biden, j'avais plutôt compris qu'il avait eu du mal à mettre en place son programme et que finalement c'était beaucoup moins ambitieux que prévu. Du coup, c'est simplement pas de chance. Il y a de l'inflation qui, pour d'autres raisons, démarre à peu après le début de son mandat. C'est pas l'effet de ses politiques.
Il avait trois plans. Trois piliers dans ses propositions. Un pilier de soutien à l'économie à court terme, politique de budgétaire contracyclique classique. On va atténuer les effets de la crise du Covid. Un pilier soutien aux revenus des étudiants, soutien aux revenus des familles monoparentales. Et un pilier investissement dans les infrastructures portuaires, électriques, à l'échelle du pays. Le premier pilier a pu être mis en place, et effectivement, tu as raison, les deux autres piliers ont été largement amoindris, notamment parce qu'on a dit, mais vous voyez, ce plan budgétaire a des effets inflationnistes, et donc il faut renoncer.
Très bien, bah merci beaucoup Jonathan. Pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, vous pouvez retrouver la note de Jonathan Marie et Virginie Monvoisin sur le site des économistes atterrés, l'inflation, une question de répartition, et de nombreuses autres notes des économistes atterrés sur tous les sujets d'actualité au fur et à mesure de la campagne. Merci Jonathan.
Merci, à bientôt. Spectre.